Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc.
Gloire à toi, Seigneur.
Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus fit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'était des pêcheurs. Il leur dit, venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il fit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui était dans la barque et réparait les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons notre apôtre de Dieu.
Je trouve la page de l'évangile d'aujourd'hui intéressante dans le sens que c'est le début de l'évangile selon saint Marc et elle présente les premières paroles dans cet évangile-là, les premières paroles de Jésus-Christ. Et c'est curieux de voir que Jean, plutôt Marc, donne le nom de bonne nouvelle à l'évangélisation de Jésus, à la prédication de Jésus. Maintenant, tout le problème, c'est de savoir pourquoi donne-t-il le nom de bonne nouvelle à la prédication de Jésus. Nous sommes à l'Antiquité, au temps de l'Empire romain. Et dans la conception romaine et dans la conception des sujets de l'Empire, la bonne nouvelle venait de l'empereur. L'empereur est un personnage divin, tout ce qui émane de lui est bonne nouvelle et source de joie, source de bonheur. Parce que il est divin. Alors, de telle sorte que était bonne nouvelle la naissance de l'empereur, parce que ça concernait l'empire. Et bonne nouvelle, l'intronisation de l'empereur. Et bonne nouvelle, la visite solennelle de l'empereur dans une contrée de l'empire. La bonne nouvelle, parce qu'elle émane d'un être qui donne de la joie et de la paix et du bonheur. Mais maintenant, Marc se donne le droit d'appeler la parole de Jésus bonne nouvelle, la comparant à celle de l'empereur et même la surpassant. Parce que pour lui, finalement, c'est la bonne nouvelle parce qu'elle émane d'un être, d'un personnage vraiment divin. Parce que Jésus, nous le savons, il est vrai Dieu et vrai homme. Donc il est Dieu, né de Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, comme nous le disons dans le credo de Nicée-Constantinople. Alors, parce que cette bonne nouvelle émane vraiment de Dieu, alors elle doit être source de bonheur, source de paix, source de joie. Pas ça vient de Dieu, voyez-vous. Mais quand on réfléchit, on se dit, en réalité, pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Eh bien, c'est parce que Jésus nous dit que Dieu est proche de nous. Le règne de Dieu est à notre proximité. Le règne de Dieu est en nous et au milieu de nous. Il n'est pas loin, il est avec nous, il est au cœur de notre vie. Mais le plus beau, c'est que la bonne nouvelle de Jésus annonce l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun, chacune d'entre nous. J'aime beaucoup ces paroles prophétiques qu'on trouve dans le livre d'Isaïe au chapitre 49, versets 15 à 16. Le livre dit « Une femme peut-elle oublier son nourrisson ?» Le livre poursuit « Peut-elle perdre la tendresse qu'elle doit avoir, qu'elle doit éprouver envers l'enfant de ses entrailles ?» Si elle arrivait à oublier le nourrisson, le fils de ses entrailles, dit Dieu, « Moi, je ne t'oublierai pas, parce que je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. » Alors ça, c'est une expression, c'est un message qui illustre très bien l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun, chacune d'entre nous. Chaque personne a du prix aux yeux de Dieu. Chaque personne compte vraiment pour Dieu. Dieu aime vraiment chaque être humain. C'est cela la bonne nouvelle. C'est cela la bonne nouvelle qui nous prend dans nos entrailles et qui nous propulse, qui nous demande d'avancer et qui nous donne de l'espérance, de l'espoir dans la vie. Dieu est avec nous. Il est au cœur de nos vies. Il n'est pas loin de nous, ce que nous dit Jésus. Mais maintenant, tout le problème, pour accueillir cette bonne nouvelle de Jésus, pour accueillir, accepter que le règne de Dieu est au milieu de nous, est proche de nous, il faut une conversion. Il faut une transformation, un changement du fort intérieur. Il faut un changement de perspective, de perception. Il faut commencer quelque chose de nouveau parce que le message de Dieu, le message de la bonne nouvelle est un message qui annonce des temps nouveaux. On ne peut pas recevoir la bonne nouvelle et continuer à être comme on vivait avant. Il faut une conversion, un changement. Il y a l'abbé Maurice Zundel, qui est un abbé suisse, qui est décédé en 1975, qui était très proche d'ailleurs du pape Paul VI. Il est considéré aujourd'hui comme un des grands maîtres spirituels du XXe siècle. Alors lui disait, c'est quoi le péché? Ce n'est pas d'abord la transgression d'une loi. Le péché vraiment dans sa racine, c'est quoi? Alors il dit, le péché en fait, c'est que nous prenons possession de nous-mêmes. C'est que nous nous tournons vers nous-mêmes, nous nous détournons de Dieu et nous nous tournons vers nous-mêmes. Tout c'est nous, tout revient à nous, c'est ça le péché, disait-il. Alors, pour se convertir, pour s'ouvrir à Dieu, il faut se détourner de nous-mêmes et nous tourner vers Dieu. C'est tout un changement de perspective, tout un changement de perception. Nous disons non à notre ego pour faire place, plus de place à Dieu, plus de place à l'autre. Nous disons non à nos attitudes égoïstes pour nous ouvrir davantage aux attitudes qui reflètent l'amour de Dieu. En fait, ce qui veut dire vraiment, c'est que nous abandonnons les tendances à la violence, à la destruction. Et que nous disons non à nos soifs de vengeance, à nos soifs de haine. Et en même temps, nous voulons sortir de ces attentes toujours égoïstes de domination et de pouvoir. Et nous voulons tout simplement nous tourner vers Dieu et laisser notre être fonctionner normalement. Mais maintenant la question, la conversion, voyez-vous, Dieu n'attend pas que nous fassions des gestes d'éclat. La conversion à laquelle nous sommes appelés aujourd'hui est une conversion quotidienne, perpétuelle, qui se déroule en silence. Est une conversion, un changement du fort intérieur, qui s'est fait au jour le jour dans le silence. Mais il y a une conversion que l'âme se tourne continuellement vers Dieu et qui se détourne de nous-mêmes, de notre ego. Hier, j'avais l'occasion de parler à un groupe, Le Chemin. Les membres s'appellent Le Chemin Saint-Joseph. Et puis, à un moment donné, je parlais avec un membre qui est une paroissienne de la paroisse de Saint-Joseph d'Orléans. Alors, elle me disait qu'elle était frappée une fois durant la célébration eucharistique. Elle avait constaté qu'il y avait un couple avec un enfant. Elle pensait qu'elle avait constaté au fait que c'était la première fois qu'ils étaient là, c'est la première fois qu'on le voyait dans la communauté. Et puis, elle a constaté qu'il y avait un d'eux qui manquait un prion, parce que c'était l'homme, en fait, qui tout le temps regardait le prion de son épouse. Alors, elle s'est dit, tiens, peut-être qu'il manque un prion. Elle a couru en arrière de l'église, elle est partie prendre un prion, puis elle est venue donner au couple. Et le couple était tellement touché, il lui a dit tellement de merci. Et la dame me disait que, par trois reprises ce dimanche-là, le couple est parti la voir pour lui dire merci du geste qu'elle avait posé ce jour-là, se déplacer, aller donner un prion. Un geste simple, un geste ordinaire, c'est en cela que consiste la conversion. Savoir dire merci, savoir rendre service, savoir saluer, savoir faire des petits gestes. C'est cela, la conversion continuelle, perpétuelle, une conversion qui se fait au quotidien. Dans les gestes ordinaires de tous les jours. Maintenant, regardez, dans l'évangile, la dernière partie, c'est l'appel des disciples. Et ce qui me frappe, c'est de voir la promptitude. Alors Jésus qui passe au bord du lac, il voit Simon-Pierre et puis son frère, il les appelle, du coup, ils abandonnent tout, ils suivent Jésus. La même chose avec les deux autres frères, Jacques et Jean. Et même dans la première lecture d'aujourd'hui, vous êtes rendu compte, Jonas va annoncer la bonne nouvelle dans la ville de Ninive. Et tous les Ninivites, à l'appel de Jonas, se convertissent, ils acceptent Dieu immédiatement dans l'urgence, voyez-vous. Et même dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Paul nous dit, ce monde-ci dans lequel nous vivons est en train de passer. Attachons-nous à l'essentiel. Il ne faut pas attendre demain. C'est maintenant, c'est urgent qu'il faut répondre à l'appel de Dieu. Disons oui, maintenant à Jésus. Convertissons-nous maintenant. C'est maintenant qu'il faut accepter, pas attendre demain. Cette affaire-là, c'est pour aujourd'hui. C'est urgent. Alors moi, je me dis, en fait, la manière de répondre à l'appel de Dieu aujourd'hui, c'est de faire comme les apôtres. Dire oui, maintenant, pas attendre demain. C'est-à-dire, quand on devient disciple de Jésus, aujourd'hui, Jésus nous appelle. Pourquoi ? Pour annoncer sa bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle ? La bonne nouvelle de l'amour de Dieu, justement. La bonne nouvelle de rappeler à chacun que Dieu l'aime, que Dieu compte sur chacun, chacune d'entre nous. La bonne nouvelle annoncée dans nos cercles de vie, annoncée dans nos familles. Et on annonce cette bonne nouvelle, pas seulement avec les paroles, on annonce cette bonne nouvelle quand on conjugue la pensée, les paroles avec le geste. C'est à ce moment-là, alors, qu'on fait des gestes de bonté, de générosité, de compassion, et qu'on annonce cette bonne nouvelle. C'est au moment où on essaie de vivre la fraternité universelle d'une manière concrète, que les gens saisissent, qu'ils voient que le règne de Dieu est au milieu de nous. C'est au moment où, réellement, on essaye de transmettre cette générosité de Dieu que finalement, le monde qui nous entoure arrive à saisir et à voir que réellement, la parole de Dieu est une bonne nouvelle. Regardez, c'est urgent de vivre cette bonne nouvelle, c'est urgent d'être des disciples. Regardez ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, eh bien, dans le monde entier, eh bien, c'est la crise de l'environnement. Le pape le rappelait encore hier avec le problème de l'Amazonie. Et puis, encore une fois, quand on regarde autour de nous ce qui se passe, c'est toujours dans le monde, il y a toujours cet écart entre les pays riches et les pays pauvres. On regarde, il y a toujours le terrorisme qui est toujours ici et là. On regarde ce qui se passe en nous, il y a la crise des réfugiés dans quelques coins du monde. Hier, on sait que les femmes ont marché dans la ville d'Ottawa. Aujourd'hui, c'est à Londres et dans d'autres coins du monde. Qu'est-ce que les femmes réclament? Eh bien, c'est toujours respecter le droit, qui est le même droit. Hommes et femmes, même droit. C'est urgent qu'il faut répondre à ce problème-là. Il ne faut pas attendre demain. C'est aujourd'hui qu'il faut répondre, se convertir et transformer notre monde. Il ne faut pas attendre demain. C'est ce que le message de Dieu veut nous dire aujourd'hui. La conversion pour aujourd'hui, regardez autour de nous et vivons cette bonne nouvelle pour annoncer à chacun, à chacune de nous que Dieu nous aime, que Dieu veut la promotion, la croissance de chacun et chacune d'entre nous. Hier, nous avons eu des funérailles dans notre paroisse. Peut-être que vous avez lu dans le journal, en tout cas malheureusement c'est un jeune homme de 23 ans qui a fait l'accident sur la 417, Mathias Fox, samedi dernier. Et puis la famille a demandé les funérailles ici. En fait, sa mère me disait que et son conjoint actuel disait qu'ils avaient vécu ici à Saint-Gabriel, ils étaient des enfants de cœur. Ils connaissaient bien la paroisse et puis ils sont partis à l'école Saint-Gabriel. Alors, il voulait vraiment qu'on fasse les funérailles de son fils dans notre église. Moi, j'ai dit que je n'avais pas de problème. Et puis, ils m'ont donné une autre condition qu'ils aimeraient, c'est qu'ils étaient proches d'un pasteur protestant du nom de Martin Laporte, et qu'ils aimeraient beaucoup que Martin Laporte fasse partie de la liturgie des funérailles parce qu'ils connaissaient bien la famille. Il dit, écoutez, je n'ai pas de problème, parce que moi-même, je suis impliqué dans l'écuménisme. D'ailleurs, c'est la semaine de l'unité chrétienne, ça serait formidable de faire ce témoignage-là. C'est ainsi qu'à un moment donné, j'ai parlé avec Martin Laporte. Alors, Martin Laporte lui me dit, tu sais là, je serais content de revenir à Saint-Gabriel parce que j'ai fait ma confirmation là-bas. Donc, Martin Laporte était un ancien catholique. Alors, il a vécu pas loin d'ici avec sa famille et il venait dans cette église. Il a aussi étudié à l'école Saint-Gabriel. Alors pour le moment, il est pasteur d'une communauté protestante qui s'est réunie dans l'ancienne église à Vanier qu'on appelait l'église du Saint-Esprit, si vous connaissez. C'est là que sa communauté, la communauté de Martin Laporte, s'est réunie chaque jour dans une communauté protestante. Alors j'ai dit, ok, c'est très bien, on va prier ensemble, on va faire ensemble, enfin ce sera un témoignage. Je lui ai dit, comme lui, comme protestant, tu vas t'occuper de la liturgie de la parole. Et moi, je m'occuperai de la liturgie eucharistique. Pas de chicane. Alors, c'est comme ça qu'on a fait les choses. Alors, mais le plus beau, moi, ce que j'ai aimé, c'est que dans son message, en fait, il disait une chose importante. Il disait, regardez, il ne faut pas attendre demain pour exprimer notre amour mutuel. Il ne faut pas attendre demain pour nous dire « je t'aime ». Il ne faut pas attendre demain pour nous supporter mutuellement quand on a un malheur qui arrive. Il ne faut pas attendre demain pour faire attention aux autres. Il ne faut pas attendre demain pour faire attention aux malades. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Regardez celui-là qui vient de mourir à 23 ans. Le temps passe. Ce monde-ci passe, dit Paul. Il faut tenir compte du monde actuel. Il ne faut pas perdre le temps. C'est dans l'immédiateté. C'est urgent qu'on réponde à ces exigences-là. Voyez-vous. Et d'ailleurs, parlant de Mathias, celui qui est mort, il paraît qu'il a donné beaucoup de témoignages chez les jeunes. Il était comme un support chez beaucoup. En tout cas, il y a eu des témoignages dans ce sens-là. Alors, une des choses qu'il disait, Mathias paraît-il, il disait que il ne faut pas nécessairement être du même sang pour appartenir à une même famille. Et c'est vrai. Nous sommes là, les chrétiens. Ce n'est pas par sang que nous sommes là, mais c'est par notre foi, par notre attachement à notre Seigneur qui fait que nous formons la fraternité universelle, la fraternité chrétienne. Alors, on dépasse le sang. C'est le Seigneur qui nous fait dépasser le sang pour entrer dans l'amour de Dieu, dans l'amour du Père. Voyez-vous ? Alors, j'ai fini avec ce qu'on vient de chanter, avec la chorale. Seigneur, montre-nous tes chemins, montre-moi ta voie. C'est ça qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous montre la voie de la conversion, son chemin d'amour, comment aimer comme lui aime, comment inscrire chaque personne dans les paumes de nos mains, comment porter chaque personne dans nos cœurs, comment faire comme Dieu et comment, au jour le jour, vivre notre conversion chrétienne. Amen.